Allô! Bienvenue à Crime de Bin, votre podcast de true crime québécois et canadien.
Préféré!
Je suis Hélène!
Et moi, c'est Mélanie. Je sais jamais si tu vas dire mon nom ou pas, je suis tout le temps.
Ouais.
Ah, ok. Je vais le dire mon nom tout seul, c'est correct. Mm. Je m'appelle Mélanie, gars.
T'es capable,
hein? Je suis capable,
fille.
C'est vrai.
On a trop peu une intro.
C'est ça notre intro.
Tu sais, des fois, il y en a que c'est genre des intros enregistrées. Ouais. C'est tout le temps la même.
Vous êtes témoin qu'on n'enregistre pas d'intro.
Non, jamais.
C'est toujours
parce qu'on
très
est
sérieux.
Pas des professionnels.
Non. Faut-tu que je dise le truc au complet?
Non, je pense que ça va.
Quand je pense que les gens sont au courant qu'on n'est vraiment pas des avocats puis des enquêteurs, des polices, on est...
Non, on est rien.
On est enceinte, mais
on
pas
est
moi,
des mamans en congé de maternité.
Voilà.
C'est ça qu'on est.
Bébé numéro 2 est toujours in.
Ouais.
Il n'est pas sorti encore.
Ben, en fait, on enregistre l'épisode un peu d'avance, fait qu'on sait pas. Peut-être qu'il va être out quand l'épisode va sortir.
Ben non, tu vas être à 39. Ah non, tu vas être à 40.
Le 28 mars, je vais être une journée passée ma date.
Ouais, t'as dit le 27, c'est vrai. Oh, ben, t'as dit hier. Fait que, guys, on sait pas.
On sait pas. Peut-être.
Peut-être. On sait pas. C'est drôle.
Oui.
On est dans le futur.
Oui. Ouh.
Merci de nous écouter dans le futur, guys. C'est gênant. aujourd'hui...
Oui.
On a un crime de patin.
Oui, hein, c'est ça, sur Michel.
Sur Michel, oui, parce que ben, ça bouleverse bien du monde, l'histoire de Michel Derry.
C'est bouleversant.
C'est oui.
Oui.
Surtout aussi mon amie avocate qui me dit que je disais de la merde quand je disais que être criminellement non responsable et coupable, c'est la même affaire. J'espère que j'ai bien rectifié. Bref. Oui, on a, je sais pas si je peux dire, je dis son nom? Britt Lévesque, qui nous a écrit. Puis elle dit « Crime de potin », je vous lis ce qu'elle écrit. « J'habite à côté du camping des Voltigeurs. Il faut savoir qu'une partie du camping où la petite Mélanie s'est fait enlever est devenue un parc, et ce, parce que le dépanneur qui a brûlé. Le dépanneur du camping, c'était là où la mère de la petite Mélanie était partie au dépanneur pendant 15 minutes, puis elle avait laissé la petite Mélanie sur une balançoire, puis elle est revenue, puis il n'y avait plus de Mélanie. » puis elle dit « Bref, quand j'étais jeune, j'allais glisser là-bas avec ma famille. » Puis elle dit « Je devais rester collée à mes parents parce que, à cause des événements. » Parce que
les événements étaient clairement connus. Tout le monde du coin pendant des années. Clair.
C'est ça, elle dit « Aux événements, le parc était reconnu pour les pédophiles puis les rencontres homosexuelles dans les bois. » Donc, ce qui fait penser à ton dernier épisode de podcast aussi. Elle dit donc le parc était vraiment épeurant par la suite. Maintenant, il a été rénové et joint, elle dit, à une promenade Riviera qui est super belle. Elle dit, il y a même une énorme piste de BMX. Fait qu'elle dit aussi, d'ailleurs, si jamais vous allez au parc, il y a encore la base du dépanneur en ciment qui est restée. Mm. C'est drôle, il faut qu'il l'aille garder.
Ouais, ben, c'est peut-être dur à défaire.
Ouais, mais genre... Fait que c'est juste un trou avec du ciment, genre.
Genre.
Ça doit être magnifique.
Mm-hmm.
En tout cas, bref, c'est ça. Merci beaucoup, Britt, de nous avoir écrit. Très gentil.
Merci pour les crimes de patin.
Les crimes de patin d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est moi qui te raconte une belle histoire. Une belle histoire. Un meurtre. Un petit classique du matin.
Toi, tes histoires soft, là.
Ben, celle-là est quand même. Ouais, non. Ben,
non, chaque fois que tu dis que c'est soft, c'est genre le massacre d'une famille au complet. Tu sais, Manny, tu m'avais dit ça. J'étais comme un boy.
Mais peut-être soft dans le sens qu'ils ont juste tué une personne.
Ah.
Pas plusieurs.
OK.
Bref, écoute, le mot soft perd son sens quand je le dis. Fait que fiez-vous pas à ce que je dis. Mais dans ma tête à moi, elle est quand même soft. Okay. En tout cas, bref. C'est l'histoire, c'est une suggestion d'une auditrice, Marie Lune, sur Instagram. Qui nous a suggéré ça. C'est les Bathtub Sisters. Sœurs de baignoire.
Ça me dit Ardien.
Ardien. Écoute, je suis contente de te raconter ça. Et là, j'ai mes sources. On m'a dit qu'on voulait que je nomme plus mes sources parce que c'est vrai que je le fais jamais. Sorry. Je commence aujourd'hui. Oups, failli sacrer mon ordinateur. Je commence aujourd'hui mes sources. Le podcast Dark Poutine, ils ont fait... un podcast, un épisode là-dessus, que j'ai pris beaucoup de sources là-dedans. Il y a un livre qui a été écrit qui s'appelle « The Class Project, How to Kill a Mother
».
Ça s'appelle de même. De Bob Mitchell, que je vais citer beaucoup dans l'épisode qui suit, celui dans lequel on est live. Et aussi, il y a un film qui a été fait, ça s'appelle « Perfect Sisters ».
Ah, Tu l'as écouté?
Ouais, je l'ai écouté.
Hein?
C'est pas le meilleur film, là.
Mm-hmm.
Mais
les
sur
actrices... Netflix?
Non.
Non?
Non, j'ai trouvé ça un site de streaming. Ah. Non, il n'est pas sur Netflix. Mais c'est vraiment low budget, là, tu sais. Au début, il y a des images. Tu sais, genre, on dirait qu'ils l'ont fait sur iMovie. C'est pas fin, ce que je viens de dire, en tout cas. Bref. Mais une des actrices, la petite adolescente, c'est quoi son nom? Je pense que c'est Abigail Breslin ou Mira Sorvino. En tout cas, c'est les deux... c'est parce que c'est deux adolescentes.
Sont-tu connues?
Il y en a une qui est connue, ouais. Okay. Genre, tu la verrais, tu saurais c'est qui, là.
Ah, okay.
Elle a joué dans plein de petits films d'adolescents, là. Mm. Cas, bref. Donc, voilà mes sources pour aujourd'hui. J'ai nommé mes sources.
Yes. Bravo,
Mel. Je me donne une main d'applaudissement à moi-même. OK, donc, The Bathtub Sisters. Je te raconte ça.
Les sœurs de la baignoire.
De baignoire, ouais. On va le traduire demain. Ça sonne tellement bien en anglais, The Bathtub Sisters.
C'est ça, en français, c'est quoi?
Ouais. Hé, hey, attends, j'ai pas l'année. J'ai juste écrit le 18 janvier. Fuck! Attends, c'est en... 80... Non. Fuck! 2002. Hey, j'ai effacé le... J'ai l'heure exacte, mais OK. OK, excusez. On recommence. Tu sais, c'était juste écrit 18 janvier. Bravo, Mélanie. OK. On est le 18 janvier 2002. 22h33.
OK.
Il y a un opérateur du 911 qui reçoit un appel d'une jeune fille de 16 ans, apparemment en panique. Et là, selon dans le livre de Class Project, voici comment l'appel s'est passé. L'opérateur, il dit... il répond, non. Il dit « Police, pompier ou ambulance? » La petite a dit « Je sais pas. » Il dit « Quel est le problème? » Elle dit « Je pense que ma mère est morte dans baignoire. »
Oh.
L'appel termine comme ça. C'est un gros appel. Non, il termine pas comme ça, là, mais l'extrait que j'ai se termine comme ça.
Okay.
Après avoir obtenu les détails, c'est la petite Sandra qui a appelé, une des deux petites filles. Le répartiteur y envoie un coroner du nom de Blair Horner pour vérifier la scène. Mm-hmm. Arrivé sur les lieux, il y a les sœurs Sandra, 16 ans, et Beth, 15 ans. Faut dire, parenthèse, que c'est pas leur vrai nom. Parce qu'elles ont été...
Elles sont mineures.
C'est ça.
Mm-hmm.
C'était des délinquants juveniles. Donc, il y a une...
Il y a une loi au Canada qui empêche de...
J'ai pas de mots.
Il empêche de dire les noms des... ouais, c'est ça, des délinquants juveniles. Là. Des victimes et des délinquants quand ils sont juvéniles.
Oui, mais ça a un nom. Ça s'appelle loi de non-divulgation.
Ouais.
C'est ça? Ben, je l'ai plus tard.
Ça sonne comme,
ouais.
Non-divulgation.
Mon mom brain, gars, je suis un peu fatiguée.
Malgré tes deux cafés.
Écoute. Donc, c'est ça. Fait que c'est pas leur vrai nom. Sandra et Beth, c'est des noms qui ont été utilisés dans le livre et dans le film. Mais c'est pas leur vrai nom.
Ouais.
On sait pas, même aujourd'hui, c'est quoi leur vrai nom. Fait que bref, dans l'histoire, Sandra, 16 ans, Beth, 15 ans. Fait que là, eux, quand Horner, il arrive sur les lieux du crime, il amène Horner dans la salle de bain à l'étage. Fait que le coroner, il arrive dans la salle de bain, il trouve Linda Anderson, 43 ans, décédée dans la baignoire. Sa peau était déjà en train de devenir grise. Ça faisait un bout qu'elle était là. Puis les filles, là, ils expliquent que c'est elle qui avait fait couler un bain plus tôt dans la soirée parce que, selon elle, elle était saoule comme d'habitude.
Que c'est les filles
qui ont coulé le bain okay. à leur mère parce que leur mère était saoule, comme d'habitude.
OK.
Leur version de l'histoire, c'est que leur mère était saoule, fait qu'ils ont fait couler un bain. Elle, Linda, la mère, elle aurait sauté dans le bain, puis les filles auraient pris sa carte de crédit à leur mère pour aller souper au restaurant Jack Astor's vers ce jour-là, vers 18h30.
OK. C'est drôle.
Fait que là, elle serait restée au resto pendant quelques heures, puis elle serait rentrée directement à la maison après. Sont allés souper avec des amis. Puis c'est à ce moment-là qu'elles auraient trouvé leur mère morte dans le bain puis qu'elles auraient immédiatement appelé 911.
OK.
C'est leur version de l'histoire. Fait que là, ce soir-là, tu sais, après que le coroner soit arrivé, il vérifie la scène de crime. Fait que là, très vite, la maison, elle se remplit de policiers et d'ambulanciers. Sandra et Beth, ça a l'air qu'elles se seraient pris dans leurs bras, elles regardaient les ambulanciers effectuer leur travail, elles capotaient un peu. Puis dans le livre de Bob Mitchell, il est spécifié que Linda était allongée sur le ventre dans le bain, la tête vers le robinet.
Hein?
Ouais.
Sur le ventre dans le bain?
Ouais.
Comment tu peux faire ça? À moins que t'aies un gigantesque bain.
La suite de l'histoire va expliquer le pourquoi. C'est quand même important, par exemple, qu'elle sur le ventre dans le bain.
Ben, tu sais, en fait, si c'était pas de ce détail-là, ben là, c'est sûr que tu me dis que c'est des jeunes délinquantes, fait que je me doute qu'il y a de quoi. Mais tu sais, si c'était juste une madame morte dans son bain, tu sais, ça aurait pu passer.
Exact.
Sans trop se poser de questions, mais là, la position est vraiment
la
louche.
La position est très louche.
Ouais.
Dans le livre, ils disent aussi que Linda était encore chaude au toucher, mais qu'elle avait déjà commencé à se raidir parce qu'apparemment, après 6 heures, à peu près, un corps sans vie commence à devenir raide.
Ouais.
C'est la raideur cadavérique.
Oui. Mais elle était chaude parce qu'elle était dans le bain, chaude, genre?
Probablement, oui. Ouais. Fait que à date, le timeline que les filles donnent, c'était un peu serré dans le temps, mais très plausible.
Genre qu'elle serait morte dès qu'ils sont partis au resto. T'sais.
Genre. Parce qu'elles sont parties à 6h30, en tout cas. Puis ils ont reçu l'appel à 10h30.
Ouais.
C'est 4h. Fait que là, ivre ou non, on s'entend qu'il est inhabituel qu'une personne se noie dans son propre bain.
Ouais.
Même pactée.
Ouais.
Fait que là, c'est pourquoi le sergent Bernie Weber et un enquêteur expert sont venus examiner la scène de plus près parce que eux disaient ça n'a pas de sens. Fait que là, il examine tout ça et il remarque qu'il n'y a aucun signe de lutte. Puis, ils n'ont rien trouvé qui puisse indiquer qu'un quelconque acte criminel.
Mm-hmm.
Fait qu'ils ne savent pas exactement ce qui s'est passé. Toujours dans le livre, il y a l'auteur, Bob Mitchell, il a mis un extrait des notes de Bernie Weber qui dit « Nous n'avons rien trouvé qui puisse suggérer que la salle de bain était une scène de crime ou une mort accidentelle. » Il avait écrit ça dans ses notes. Okay. Fait qu'il sait pas.
Ni une mort accidentelle. Fait que c'est juste genre aucune idée.
On n'a aucune idée. Après ça, il y a une autopsie qui a été faite sur le corps de Linda.
Mm-hmm.
Puis il y a des détails quand même très importants qui ont été divulgués au tribunal. Fait que là, dans les documents du tribunal, on peut lire que il y a un taux de 415 mg d'alcool par 100 ml de sang. Ça, mettons, 0,08, là, la limite pour conduire, c'est 80 mg.
Puis là, c'était
415.
Okay.
C'est énorme.
Okay.
Mettons, j'ai demandé à mon amie avocate, puis elle me disait, c'est vraiment beaucoup, là. C'est genre quasiment 5 fois la limite permise. C'est
genre, t'as calé une bouteille de fort.
C'est énorme. Fait que, tu sais, elle était pas là, la fille. Elle était très, très saoule. Ils ont trouvé aussi de la codéine à 0,07 mg par 100 ml de sang. Ils ont trouvé de l'acétaminophène à 3 mg par 100 ml de sang.
C'est quoi de la codéine, donc?
La codéine, c'est... Attends, j'ai fait des recherches là-dessus.
C'est un
médicament? Ben, c'est dans... Il y en a, mettons, dans des Tylenol forts.
Ouais.
Genre des Tylenol numéro 3, il y en a.
OK.
Dans les Tylenol numéro 3, il y a de l'acétaminophène, de la codéine, puis de la caféine.
Okay.
C'est quelque chose de vraiment fort. Je pense que l'acétaminophène, c'est comme l'analgésique puis la codéine. Attends, je l'avais ici. La codéine, ça appartient au groupe de médicaments appelés les narcotiques analgésiques. Puis l'acétaminophène, c'est
Des Tylenol, dans le fond.
Des Tylenol, oui.
Ouais.
Normal.
Ouais. Quand tu achètes le générique, c'est acétaminophène.
Exactement. Ouais. Mais quand tu as besoin de quelque chose de plus fort, c'est prescrit. Là.
OK.
Donne la codéine. Fait que ça, il y en avait à 0,07 mg par 100 ml de sang. Fait que c'est un mélange quand même assez explosif, on va dire.
Ouais.
Fait que c'est les deux filles avaient donné ça à leur mère, des Tylenol codéine, avec la codéine.
OK.
Puis ces Tylenol-là sont sous prescription, puis c'est ça, ils contiennent l'acétaminophène, la codéine, la caféine.
Puis mettons, le taux dans le sang, ça veut-tu dire qu'elle en avait pris beaucoup ou juste, mettons, elle en avait pris 2-3, puis...
Ben oui, c'est quand même élevé.
Okay.
Parce que quand tu le prends en contexte, tu sais, l'alcool et la codéine pris ensemble, ça diminue considérablement les fonctions mentales, dépendamment des quantités consommées et la tolérance du corps à ce genre de dépresseur-là. Mais l'effet de la combinaison, ça peut entraîner une perte de conscience, un coma ou possiblement la mort. Mais dans ce cas-là, la mort, ça a été déterminé comme... La cause de la mort a été déterminée comme étant la noyade.
Mm-hmm.
Fait qu'il n'y avait aucun signe de traumatisme sur le corps. Il y avait des signes de cirrhose précoce du foie. Bref...
Trop d'alcool.
C'est ça, trop d'alcool. Fait que tout indiquait que l'histoire de Sandra et Beth était vraie.
Mm-hmm.
À suivre.
Mm-hmm.
Je te parle un peu de maman, Linda Andersen. Linda Andersen est née à Bialystok, en Pologne, le 5 avril 1959. Elle vient d'une famille assez aisée. Ses deux parents étaient médecins. Elle aussi, elle voulait être médecin, fait qu'elle est allée à l'université.
OK.
Elle a rencontré son mari Walter, le père des deux filles, en Pologne. Puis au milieu des années 80, ils sont déménagés à Saskatoon, en Saskatchewan, où Sandra est née en 86. Un an plus tard, en 87, ils sont déménagés à Toronto, puis c'est là que Beth est née.
OK.
Fait qu'une en 86, une en 87. Fait que ça se passe pas super bien entre Linda et Walter. Ils se disputent vraiment souvent. Puis les documents judiciaires du procès, ils mentionnent que Linda ne pouvait plus supporter la tyrannie et la rigidité de Walter. Fait que se sont séparés.
Okay.
Linda, après ça, pendant la séparation, Linda a fait en sorte que... c'est un fun fact qui s'en vient. Que Walter, il a du mal à voir ses filles, mais Walter, ça ne le dérangeait pas vraiment. Pour te faire un petit portrait vite-vite de Walter, lui, il a décidé de trouver un emploi moins bien rémunéré que celui qu'il avait présentement pour payer moins cher de pension alimentaire.
Oh boy!
C'est ce genre de père-là.
OK.
Tu sais?
Fait que bye-bye, Walter.
C'est ça. Il y avait beaucoup d'amertume, de comportement mesquin, dit mesquin, entre les parents puis les filles, il en était vraiment consciente. Il était vraiment pris entre les deux. Là.
C'est pas ça.
Pendant la séparation, Linda a envoyé les filles vivre chez leurs grands-parents, ses parents à elle, en Pologne. Elles sont restées là pendant à peu près 2 ans. Pendant ce temps-là, Linda, elle, a repris ses études dans l'espoir d'obtenir un emploi un peu mieux rémunéré pour soutenir financièrement sa famille. Puis quand Linda a obtenu son diplôme d'infirmière, puis qu'elle s'est trouvé un emploi, là, les filles sont revenues habiter avec elle.
OK.
En Ontario. Fait que là, le trio d'abord habité dans un petit appartement à Etobicoke. Etobicoke?
Oui, Etobicoke, oui.
Toujours en Ontario. Puis ensuite, ils sont déménagés dans une maison arrangée à Mississauga.
OK.
Toujours en Ontario.
Ouais. Dans le Grand Toronto.
Yeah. Les filles ont toujours gardé contact avec leur père. Ils visitaient et tout. Sandra a gardé un bon souvenir de ces visites-là, mais pas Beth. Ça a l'air. Oh. Dans le procès, il a été dit que leur père a été décrit comme un peu bizarre puis solitaire. En dehors de... Il disait que son plan, c'était que ses filles obtiennent des bourses. Fait qu'il voulait vraiment qu'ils augmentent leurs notes pour pouvoir dépenser l'argent. Genre, il voulait qu'il y ait des bourses pour que l'argent aille dans ses poches. Lui, il pensait que ça marchait de même.
Dans ses poches à lui?
Ouais.
Ah! Pourquoi les filles lui auraient donné leur argent
de bourse? C'est ça. Lui, dans son temps, c'était son seul intérêt. Puis, tu sais, il disait qu'il était vraiment détaché d'elle puis il était pas vraiment impliqué dans leur vie. Sans sacré, bref. En 91, on avait 1 an, nous. Toi, t'avais 2 ans. Linda a commencé à dater un homme qu'elle avait connu en Pologne, mais qui était immigré au Canada. Le couple ont eu un enfant, Bobby.
Oh, Bobby!
Bobby. Les filles, les deux adolescentes, ils adorent leur nouveau petit demi-frère. Ils mourraient pour lui. Là, il l'aime. Mais elle se rend compte que le père de Bobby, il est violent envers Linda.
Oh non.
Puis ça, dans le film, on voit quand même assez bien. Là, là, quand la fille, elle se rend compte que sa mère, elle a des bleus partout dans le dos. Puis elle se rend compte qu'il la bat. Le couple, Linda et son chum, ils boivent beaucoup. Puis ils se disputent tout le temps. L'homme, il frappait puis il maltraitait physiquement Linda, puis il en est venu à frapper les filles aussi. Puis aussi, il était verbalement très, très agressif envers les 3 femmes, dans le fond. En 2001, après une chicane particulièrement violente avec Linda, l'homme a été condamné, lui non plus, on ne sait pas son nom, il a été condamné pour agression armée, après quoi, ils se sont séparés.
Bon. Bye-bye. Bye, le parfum.
Donc là, c'est peut dire que pendant cette relation-là, l'alcoolisme de Linda, il s'est vraiment aggravé. Puis il y a des rumeurs non confirmées qui disent qu'elle consommait aussi du crack à cette époque-là. Mais c'est non confirmé, on ne sait pas si c'est vrai.
Ouais, des fois, c'est juste les journaux qui aiment ça.
Exactement.
Mettre plus de potin, même si c'est pas tant vrai.
Plus de piquant. Aussi, pendant le tribunal, il a été dit que Linda était tout le temps ivre ou sous l'influence de l'alcool dès qu'elle avait de l'argent pour acheter de l'alcool. Il y a une des deux filles qui a dit qu'elle conduisait tout le temps en état d'ébriété avec elle dans la voiture. Puis il disait aussi que l'argent qu'elle gagnait était d'abord dépensé pour acheter de l'alcool, puis ensuite, s'il en restait, c'est un gros, très gros si, là, elle subvenait aux besoins de ses enfants.
Hey boy.
J'ai vu une entrevue avec une des deux filles qui disait, elle était floue, là, son visage, on la voit pas, mais elle dit... Elle dit jusqu'à adolescente, elle dit je savais même pas que c'était normal pour une famille d'avoir un souper à tous les soirs.
Oh my God!
Donc là, il y a au moins à deux reprises, les filles ont appelé la Société d'aide à l'enfance pour signaler leur situation, mais l'enquête n'a jamais permis de justifier une intervention. Ils n'ont jamais rien fait avec ça. Soit parce que les filles, elles se rétractaient, soit parce que Linda était capable de bien se présenter quand il fallait.
Ouais, c'est ça.
T'sais, comme elle faisait habituellement avec sa famille et ses amis. T'sais, quand la famille est là, quand les amis sont là. Ça, dans le film, tu le vois très bien, puis c'est quasiment frustrant.
Oui, quand elle juste vraiment normal.
Ben oui. Puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui offre un verre de vin, puis elle est comme « Oh non, I can't. » Non, non, non.
Oh t'sais. My God.
Bref. Aussi, les filles signalaient leur mère aux services sociaux. Puis quand les services sociaux se présentaient sur place, leur mère était flawless. Là, t'sais, était une bonne mère. Elle était bien habillée, elle était pas saoule. Non, non, non. Fait, t'sais, elle faisait bien ça. Écoute. Linda, elle avait, selon quelques personnes, un côté vraiment positif. Il y a beaucoup de collègues de l'hôpital, parce qu'elle était infirmière, qui parlaient bien de son travail puis qui l'admiraient même. Parce que pour eux, elle faisait des nombreux sacrifices. Parce qu'elle avait quand même deux emplois puis elle allait à l'école pour subvenir aux besoins de ses enfants. Fait que, tu sais, de ses collègues, elle était vraiment bien vue, là. Puis aussi, ses enfants, selon les dires de Linda, qui étaient exigeants sur le plan matériel et très peu reconnaissants envers elle puis envers ce qu'elle faisait pour eux. Ses collègues étaient clairement pas au courant de son problème d'alcool puis son problème.
Ouais, vu de l'extérieur.
Même si elle a fini par se faire congédier pour absentéisme.
Oh!
Parce que c'est un classique, là, quand t'es alcoolique, tu te présentes pas au travail. Bref. À l'été 2002, Linda perd son emploi. Puis là, elle commence à boire vraiment beaucoup. La situation continue de se détériorer. Selon Sandra et Beth, c'est elle qui élevait puis s'occupait de leur petit frère. En plus de prendre soin de leur mère, parce qu'elle était pas capable de s'occuper elle-même. Elle se rendait bien compte qu'elle avait vraiment... Tu sais, ces filles-là, ils avaient vraiment pas la même vie que les autres adolescents autour d'elle. Tu sais, ils commencent à catcher qu'elle c'est pas normal. Là.
Que genre, toi, tu peux pas sortir le soir parce que tu t'occupes de ton petit frère.
Exactement. Puis que, tu sais, ta mère... Hein, c'est ça, faut que tu laves ta mère, puis genre... Fait que là, elle commence profondément à détester leur mère. Là, ils laissent. Elle parlait ouvertement, très négativement de Linda avec leurs amis. Puis, ils ont commencé à se demander qu'est-ce qu'on peut faire pour s'en débarrasser.
Oh my God.
Selon les documents du procès, il y avait un clair manque d'autorité et d'accompagnement de la part des parents envers leurs enfants. Puis, les sœurs, il y avait des raisons valables d'avoir une opinion négative de leur mère.
Ben oui.
Ah oui, si. Elles étaient aussi incapables de voir ou d'apprécier son côté positif, dans le sens que elles voyaient seulement que leur mère n'était pas là pour elles. T'sais, elles ne voyaient pas qu'elles travaillaient deux fois plus pour subvenir à leurs besoins. Elles ont vu leur mère sous le mort. Elles ne voyaient pas une mère épuisée qui essayait de s'en sortir et se réconforter dans l'alcool. C'est comme normal.
Ouais.
À la fin de l'été 2002, là, l'alcoolisme de Linda il avait atteint un niveau extrêmement critique. Là, ça va plus. Les filles continuent de détester leur mère, là, au plus haut point, les laisses, là. Oui, laisses,
tu sais. En crise d'adolescence, là, tu sais.
Mais oui, en plus, t'imagines. Fait que oui, parce qu'elle buvait trop, mais aussi parce qu'elle avait amené et gardé pendant vraiment trop longtemps un homme violent dans leur vie, le père de Bobby. Les filles étaient de plus en plus frustrées par leur incapacité à aider leur mère, par le déni de Linda envers son problème d'alcool. Fait que là, elles commencent aussi à avoir... Tu sais, elles, les deux filles, commencent à... avoir des problèmes. Puis elles suivent, tu sais, naturellement, elles suivent comme les mêmes traces que leur mère. C'est-à-dire, elles commencent à faire la fête, elles commencent à boire de l'alcool, à se droguer, puis à être sexuellement trop actives pour des enfants de leur âge, ben, des adolescents. Fait que là, au début de l'année 2003... Ah oui, là, on est... J'ai comme un petit saut dans le temps.
Ouais, c'est ça, parce que en 2002.
Ben, au début de l'année 2003... Il y a eu les funérailles de Linda.
OK.
Apparemment, ce jour-là, Beth et Sandra, ils semblaient insensibles puis ils montraient aucun respect. Selon les collègues de Linda, les filles étaient loin de l'image qu'elles peignaient fièrement de ces filles lorsqu'elles parlaient d'elles. Dans le livre de Class Project, il dit « Les deux adolescentes riaient et s'amusaient avec leurs amis à quelques mètres du cercueil ouvert de Linda. Les collègues de Linda ont quitté les funérailles consternés par la façon dont Sandra et Beth s'étaient comportées. Linda avait parlé à certains d'entre eux du peu de respect que ses filles lui accordaient, mais ils ont été choqués par ce qu'ils ont vu. Genre, eux, ils vivaient dans un autre monde.
Ouais, ouais.
sais, il y a personne qui osait s'imaginer à ce moment-là qu'est-ce qui s'était réellement passé, tu sais.
En même temps, ça, c'est tout le temps touché. C'est comme, t'es ado, comment tu réagis à la mort de ta mère?
T'sais, écoute.
Ça se peut que tu ris quand t'es pas supposé rire.
C'est ça.
Gentil, c'est ça.
Fait que tu sais, c'est encore... Ouais. On sait pas trop.
Ouais.
Charles Boswell, un des amis de Linda de l'hôpital, il parlait des funérailles, puis il a dit, et je cite, « Elles étaient très irrespectueuses. Elles avaient l'air de préférer être ailleurs avec leurs amis. Elles semblaient décontractées, presque optimistes, et avaient le sourire aux lèvres. Elles n'avaient pas l'air désolées. » Fait que tu sais. Selon le livre de Bob Mitchell aussi encore, après les funérailles, les filles y ont emménagé chez leur tante Martha. Walter, leur père, lui, s'est installé dans la maison de Linda, qui était maintenant vide, okay. la maison rangée à Mississauga. Puis, il a décidé de faire revenir Sandra et Beth habiter avec lui dans la okay. maison de leur mère décédée. Les filles y haïssaient vivre avec leur père, parce qu'il était très différent de Linda. Parce que sous son toit, Walter était un père quand même normal.
Uh-huh.
Il y avait des règles.
Ouais. Les filles, ça faisait longtemps qu'il n'y avait plus de règles.
Hey, pas d'alcool, pas de folie, pas de party, pas de drogue, rien. Il exigeait même des reçus pour prouver qu'elles avaient bien utilisé leur argent comme elles disaient qu'elles avaient fait. Mais surtout, Walter, il attendait d'elles qu'elles allaient à l'école, qu'elles améliorent leurs notes. Mm. Là, elles ne trippent pas, là.
Non.
Ils sont pas habitués. Fait qu'il exigeait aussi de rencontrer apparemment leurs amis avant de les autoriser à venir à la maison. Il fixait des heures de repas régulières.
Oh.
C'est nouveau, ça.
Nouveau,
aussi.
Ça.
Et, mais elles ignoraient tout ça, elles s'en foutaient. Mm-hmm. Puis, instaurer aussi un couvre-feu que, évidemment, les filles n'ont jamais respecté. Fait que, tu sais, elles faisaient quand même des parties à la maison, mais elles s'assuraient que la maison soit impeccable mm-hmm. après pour pas que Walter s'en rende compte à son retour. Walter, il est pas con. Là. Il a vite compris qu'il pouvait pas contrôler Sandra puis Beth. Fait qu'après un certain temps, les filles sont retournées vivre chez leur tante Martha.
Okay.
Puis là, Martha,
ils
ont...
Bobby, il est où?
Bobby, il est avec son père.
OK.
À lui.
Son père violent?
Yeah. Ouais. mais il est pas violent envers Bobby.
Okay.
C'est juste envers les femmes. Fait que c'était... Ben, c'est...
Au moins pour Bobby, ouais. J'espère qu'il est correct.
Ils ont commencé. Les filles, quand ils sont déménagés chez Martha, parce que là, ils étaient rendus wild, ils ont ouais. commencé à y voler de l'argent, puis ils ont continué à boire puis à se droguer avec l'argent de Martha, avec leurs amis. Fait qu'en novembre 2003, moins d'un an après la mort de Linda, il y a un ami de Sandra, David, 21 ans, qui s'est présenté au service de police avec un secret. Il annonce à la police que Sandra et Beth lui avaient admis avoir tué leur mère.
C'est là qu'ils ont fait leur erreur. Parce que là, jusqu'à date, c'était le meurtre parfait. Là.
Exactement, on savait pas. Après cette confession-là, la police s'est repenchée sur le cas de Linda Anderson.
Mm-hmm.
Parce que le cas, il est connu parce que les filles ont failli s'en tirer.
Oui, vraiment.
Mais
ils
s'en sont pas tirées. Fait que là, on se repenche sur le cas de Linda Anderson. Les enquêteurs, tu sais, eux autres, ils avaient conclu d'une mort par noyade accidentelle avec une intoxication extrême comme facteur.
Mm-hmm.
C'était obviously pas ça. Fait que là, c'est là que les inspecteurs ont donné le nom de l'affaire, le meurtre des filles de la baignoire. The bathroom. The bathroom. Bathtub Sisters Murder. Il y a David, l'ami des filles, il a aussi mentionné qu'il s'inquiétait de la consommation de drogue de Sandra, puis du fait qu'elle parlait beaucoup de suicide. Fait que, c'est pour ça qu'il est allé voir la police, il capotait.
Okay, ouais.
La seule chose que David était sûr, c'était que Sandra lui avait dit que la mort de sa mère, c'était pas un accident. Fait que là, dans le livre de Bob Mitchell, Sandra aurait dit à David, et je cite, « Je l'ai tué. Je l'ai assassiné. Quelqu'un allait mourir cette nuit-là. Soit moi, soit elle.
Hey. »
Fait que, tu sais, ça n'en dit long. elle se serait ensuite vantée d'avoir fait croire à la police qu'il s'agissait d'un accident. Genre, elle était fière de sa chute, là. Fait que là, la police, elle demande à David de porter un micro puis d'aller rencontrer les filles, ce qu'il a accepté de faire. Fait que là, ils ont entraîné David à être capable d'aborder le sujet du meurtre puis à amener les sœurs Anderson à se confesser. Il a fait un petit training.
Ouais.
L'opération a duré plusieurs mois, jusqu'en janvier 2003, parce que là, on était en novembre.
Mm-hmm.
Jusqu'en janvier 2004, Mon Dieu, je suis un peu mêlée. Mon timeline est un peu mêlé, je m'excuse. Quand
en janvier, pendant 6 mois, lui, il a porté un body pack. Genre.
Ben, comme... 3 mois.
OK. Voyons, David, pourquoi t'es tout le temps en coton ouaté?
Pauvre petit cœur. Fait que là, en janvier, après, David, il a réussi à les faire parler. La police, elle écoutait attentivement toutes les rencontres en notant puis en enregistrant chaque conversation. Les deux filles ont mentionné qu'elles avaient participé à l'organisation et au meurtre de leur mère. Il y a des amis qui les avaient aidés à planifier le meurtre aussi. Ça, ils s'en sont rendus compte parce que il y avait comme par le biais de nombreuses discussions sur Internet, dans des chats. Ils avaient envisagé de multiples scénarios, dont un qui était de mettre le feu à Linda, carrément. C'est une des possibilités. Aussi, dans le film, parenthèse, il y a... Je sais pas si ce côté-là est un peu inventé, mais dans le film, ils se créent un club à l'école avec deux de leurs amis, les deux sœurs puis deux de leurs amis. C'est
comme... Le club Kill
le
Linda?
Le club How to Kill Your Mother.
Ah!
Mais je sais pas s'ils ont fait ça dans la vraie vie, c'est pas mentionné, mais...
C'est pas impossible. Genre, ouais. Je peux vraiment imaginer des ados frustrés créer un club de même puis qui mènent à rien.
Ils se rencontrent, puis là, ils font des tests, puis genre... dans le livre, il est dit que David lui a demandé à Sandra si elle avait pensé se livrer à la police. Elle aurait répondu non parce que si elle faisait ça, ça détruirait sa vie à elle, puis ça affecterait la vie de beaucoup de gens autour d'elle. Puis aussi, elle disait « Comment je pourrais aider à élever mon petit frère si je suis pas là? » Fait que tu sais, il aimait vraiment leur petit frère.
Oui, il voulait pas l'abandonner. Là.
Exactement. Elle, son plan, c'était dès qu'elle vivrait seule puis qu'elle aurait un travail, elle avait l'intention de faire vivre Bobby avec elle plutôt qu'avec son père. Elle aurait dit à David, c'est pourquoi je dois rester cohérente au cours des 2 prochaines années puis faire quelque chose de moi-même pour gagner de l'argent. Il était clair que, pour la police, d'après les conversations avec David, qu'il y avait beaucoup d'autres jeunes qui étaient impliqués aussi dans le meurtre de Linda.
Ouais.
C'est pas juste les deux filles.
Mm-hmm.
Fait que le matin du 21 janvier 2004, plus d'un an après la mort de Linda, il y a une... Parce qu'elle est morte à la fin de l'année 2002, dans le fond. La mort de Linda. Il y a une nuit de policiers qui a. Là, ils ont arrêté Sandra, ils ont arrêté Beth, puis ils ont arrêté plusieurs de leurs amis. Ils ont arrêté les amis que. Tu sais, ceux que les policiers pensaient qui étaient impliqués dans le meurtre de Linda. Mm-hmm. Il y en avait vraiment beaucoup à ce qui paraît.
C'est étonnant que ce soit pas sorti plus tôt.
Non, là. C'est ça. Ouais. Mais c'est pour ça qu'ils ont vraiment passé proche de s'en tirer.
Il y avait des bonnes amies, là.
Ouais. Ben... C'est ça. Ouais. Mais tu sais, là, quand t'es adolescent, tes amis, c'est toute ta vie.
Ouais.
Tu mourrais pas. Ouais. Ta famille, tu t'en sacs.
Ouais, c'est vrai.
Donc, la police, elle arrive avec des mandats de perquisition pour les ordinateurs, les cellulaires puis tout autre appareil électronique susceptible de contenir des preuves parce qu'ils savaient que tout ça, s'était passé par chat.
Ouais. En 2002, c'était quoi?
Rendu en 2004. Ouais, en 2002.
Donc, c'était genre MSN.
Ouais, probablement.
Ouais.
Oh mon Dieu. MSN. La police a arrêté les sœurs Anderson vers 7 heures du matin chez leur tante Martha. Il y a Sandra qui a été emmenée au poste de police en pidge.
Ah.
Pendant l'arrestation, ça a l'air que les officiers y auraient dit qu'elle pouvait se changer, puis elle a dit qu'elle voulait rester en pyjama. Mmh. C'est vraiment pas un fait important dans l'histoire,
non,
mais
c'est
quand même
drôle.
Ouais.
Ben, c'est sûr que t'es plus confortable en pyjama.
Ouais, t'es comme, tant qu'elle est en prison, moi, elle est en pidge.
T'as l'air quand même plus innocente sur la petite fille en pyjama. T'sais.
Ah, peut-être que c'est ça. Mmh. Peut-être. Beth, elle a été emmenée séparément au même poste de police. Ils ont été gardés dans les salles d'interrogatoire séparées puis interrogés pendant quelques heures jusqu'à environ 4 heures le soir. De 7 heures le matin à 4 heures le soir.
Eh oui.
Sandra, elle a avoué vers 13 heures à peu près. Elle était étonnée. Ben mais
oui,
pas Beth.
Quand même, c'est long.
Non, c'est ça. Ils ont été ensuite placés dans la même pièce après avoir été prévenus que leur conversation sera enregistrée. Elles ont parlé pendant environ 10 minutes, principalement en polonais. Je savais même pas qu'ils parlaient polonais. Quand,
ouais, avant leurs parents étaient polonais, logique.
C'est ça.
Ouais.
Beth a rappelé à Sandra qu'il ne fallait rien dire à la police. Elle disait faut pas céder à leur tactique, à leur persistance. Elle disait que leur ami David était stupide d'avoir cru ce qu'elle lui avait dit sur le meurtre de leur mère. Puis il disait c'est pas vrai, c'était en fait une grosse blague. Elle disait ça.
Okay.
Parce qu'elle savait qu'elle était enregistrée.
Ouais. Puis que la police allait trouver quelqu'un qui parle polonais pour traduire.
C'est ça. Non, c'est pas très compliqué. Mais il y a un ordinateur de la maison de la tante Martha qui a été saisi lors de l'arrestation, qui a été analysé. Il contenait des enregistrements de chats en ligne dans les semaines qui précédaient la mort de Linda. Dans ces conversations-là, Sandra, Beth et leurs amis, il y avait un groupe de chat, puis ils parlaient d'un plan pour noyer la mère dans la baignoire après l'avoir fait boire.
Mm. Oupsie!
Oupsie! Elle partait... Tout était là. Elle parlait de... elle disait, on va partir, on va se retrouver toutes les amies au Jackasters, on va se donner un alibi avant de rentrer chez elle, puis elle disait, après ça, on va rentrer à la maison, puis là, on va découvrir, entre guillemets, que notre mère s'est noyée. L'ordinateur, il avait également été utilisé pour visiter des pages web traitant des effets de l'alcool et du Tylenol numéro 3. Quelqu'un avait même téléchargé un document détaillant les processus physiologiques impliqués dans la noyade. Genre, tout était là.
Ouais.
Il y avait même... il y avait le contenu de certaines discussions qui étaient très alarmants. C'était rempli de haine envers Linda. On pouvait clairement dire que deux semaines avant le meurtre, la planification avait commencé. Genre, vraiment, tout était là. Dans une discussion entre un ami puis Beth, le garçon lui demande « Comment ça se passe avec ta mère? » Puis Beth, elle y répond en lui demandant s'il allait l'aider pour son alibi. Fait que tout était là. Le plan s'est ensuite discuté. On parle de la noyade dans la baignoire en tenant la tête de Linda sous l'eau lorsqu'elle est ivre. Les filles fixent une date provisoire pour le meurtre. C'était un samedi, mais ils se sont rendus compte qu'il y avait un party ce samedi-là. Fait qu'ils ont remis à une semaine plus tard. Genre, ils parlaient de tout ça dans la discussion, là. On est vraiment au courant de tous les détails.
Aïe, aïe.
T'es comme, ah non, il y a un party chez telle personne, on peut pas.
On peut pas tuer notre mère.
Fait qu'on le tue la semaine prochaine.
Eh hey boy.
Dans un autre chat, Sandra a partagé des informations concernant les effets du mélange des Tylenol numéro 3 puis de l'alcool. Sandra a dit, et je cite, « Je vais donner à maman 3 Tylenol numéro 3 ou plus. Je vais la laisser dans la baignoire, puis aller au Jackasters. Je vais revenir à la maison avec des alibis. » Elle écrit ça carrément. Elle mentionne aussi comment elle va dépenser le 70 000 $ de l'héritage prévu une fois qu'elle va l'avoir reçu.
Oh my God.
Elle dit qu'elle va les gaspiller en drogue, en voyage, puis qu'elle prévoit acheter une arme. Fait que c'est cette journée-là qu'on découvre que c'est pas juste une question de haine, mais c'est une question aussi d'argent.
Ouais.
Ils veulent l'argent. Ils sont tannés pas d'en avoir.
Ils ont vraiment juste livré toutes les preuves sur un plateau d'argent. Là,
exactement. Fait ah ouais. Qu'il y avait la recette. Écoute, je te dis la recette. Là, dans Dark Poutine, ils faisaient ça. Je trouvais ça cool. la recette, c'est simple. 1. On choisit le jour. 2. On crée une trace écrite pour formuler un alibi, a.k.a. acheter des billets de cinéma une heure avant l'heure de la mort de Linda. 3. Rassembler les bons outils, c'est-à-dire 5 Tylenol numéro 3. Il contiendrait assez de codéine pour rendre Linda incohérente et docile pour les mélanger à sa vodka et les donner à Linda. Attends, la phrase n'en marche pas. 3. Rassembler les bons outils, c'est-à-dire 5 Tylenol numéro 3. Il contiendrait assez de codéine pour rendre Linda incohérente et docile et les mélanger à sa vodka ou donner à Linda la boisson mélangée à la codéine et attendre de voir le résultat. C'est l'étape numéro 4. Lui faire couler un bon bain chaud pour qu'elle se sente plus à l'aise. 5. Mettre Linda dans la baignoire et l'aider à se détendre. 6. Attendre qu'elle soit inconsciente à cause de l'alcool et des drogues. Ce qui est un mélange assez explosif, on se rappelle. 7. Lui enfoncer la tête sous l'eau pendant au moins 4 minutes alors qu'elle est allongée sur le ventre.
Ouf.
Parce que c'est plus facile. C'est pour ça qu'elle était sur le ventre. 8. S'assurer qu'elle est morte. C'est quand même une bonne étape. 9. Sortir et faire la fête avec les amis. C'est l'étape numéro 10. L'étape numéro 10. S'entraîner à pleurer et à devenir hystérique pour appeler le 911 et pour signaler une mort accidentelle. 11. Agir comme des petites filles tristes et jouer à la victime. 12. Donner son alibi à la police. 13. Recevoir l'argent de l'assurance-vie et bien vivre.
C'est trash. C'est vraiment trash. C'est vraiment comme...
C'est des adolescentes, là.
Ouais.
Ça me fait capoter.
De sang-froid.
Oui.
C'est ça, c'est vraiment calculé, planifié. Tu sais, c'est comme...
Ah ouais, genre, tu peux pas planifier plus que ça.
Il y a full de circonstances atténuantes. Tu sais, les filles font quand même pitié, non, mais ça reste vraiment horrible.
Oui, vraiment.
Ça reste ta maman.
Genre, à quel point t'as eu ta
mère? J'ai un problème d'alcool.
Ouais, en tout cas. En novembre 2005, quand même vraiment plus tard, les filles ont été reconnues coupables du meurtre de leur mère. Apparemment au grand désarroi de la couronne. La couronne, elle voulait perpétuité avec 10 ans sans possibilité de libération conditionnelle.
Ouais.
Ça n'a pas marché. Cependant, les sœurs ont été condamnées en tant que jeunes délinquantes.
Mm-hmm.
C'est pourquoi, même à ce jour, leur anonymat est conservé. Elles ont reçu, même aujourd'hui, ça a été la sentence maximum autorisée par la loi pour un jeune délinquant, qui est 10 ans.
OK.
Il n'y a jamais plus qui a été donné que ça. Il y a le jeune homme qui les a aidés. Là, on ne connaît pas son nom non plus.
Mm-hmm.
Il a été condamné à 1 an en tant que jeune délinquant aussi, fait qu'il est sous l'anonymat.
Mm-hmm.
Et ça a l'air qu'une fois en prison, les deux sœurs ont été des détenues modèles. Fait qu'après environ 5 ans, elles ont été libérées, puis elles sont allées dans des maisons de transition, puis là, ils ont poursuivi leurs études. Sandra, qui est l'année, elle a excellé à l'université, ça a l'air. Elle est devenue ingénieure. Puis Beth est aujourd'hui mariée, elle a des enfants. Elle poursuit une carrière d'avocate.
Hmm.
Quand même.
Quand même.
Le thérapeute de Sandra, ça a l'air qu'il dit que même si elle a réussi sa vie, elle a une famille, des enfants, tout, elle est toujours très manipulatrice, puis elle reste dans le même état d'esprit qu'avant le meurtre.
Oh.
Fait qu'elle n'a pas tant changé. 17 ans après le crime, les jeunes meurtrières font toujours leur vie parmi nous. Et les seules interdictions qu'ils ont, c'est de consommer de l'alcool puis des drogues. Même à ce jour, ils n'ont pas le droit. Même sortis dans la vie tous les jours, ils n'ont pas le droit.
Ça n'a pas tant rapport. C'est pas comme s'ils avaient tué leur mère parce qu'elle était saoule.
Non, je sais pas.
Je sais pas. En tout cas.
Ben, c'est peut-être dans leur gène, c'est comme. Je sais pas.
Je sais pas.
La rumeur veut que le petit ami de Linda, au moment de sa mort, continue à se rendre sur sa tombe avec des fleurs fraîches. Parce qu'il y a tout le temps des fleurs fraîches sur sa tombe. Et c'est ça, ben là, j'avais juste mis à l'été 2011, il y a le livre de Bud Mitchell de Class Project qui a été transformé en film Les Perfect Sisters avec Abigail Breslin, Mira Sorvino et Georgie Henley. Il y a les vraies sœurs qu'on sait pas leur nom.
Mm-hmm.
Ils ont jamais témoigné pour dire ce qu'elles ont pensé du film, mais ça a l'air qu'il serait beaucoup trop dramatisé.
Ouais.
Moi, je l'ai vu. C'est pas si. Tu sais, je connais pas plus de détails que ce que je vous ai dit aujourd'hui, mais c'est pas tant dramatique. C'est peut-être le père qui est vraiment intense avec.
Ouais.
Le petit ami de Linda, dans le fond, dans le film, tu sais, il fait vraiment des attouchements, des avances sexuelles à des filles. Peut-être que ça a été vraiment intense. Mais je sais pas.
Puis, mettons, le film, est-ce qu'il. Tu sais. Il te laisse de quel côté, genre? Est-ce qu'il te laisse comme « Ah, les filles faisaient pitié » ou genre « Elles sont vraiment méchantes, mettons. »
C'est quand même neutre, je te dirais.
Ouais.
Mais je veux comme pas dire la fin pour les gens qui voient, mais... Bref. Je peux pas en dire plus si vous voulez écouter le film.
Neutre.
Ouais, neutre. Fait que voilà, c'était l'histoire des filles qui ont tué leur mère, qui ont noyé leur mère.
Ah, c'est vraiment fucké comme histoire? Je la connaissais pas.
J'en avais déjà entendu parler, mais j'avais jamais comme pensé faire un épisode là-dessus.
Ouais.
Mais voilà.
C'est le fun que tu racontes cette histoire-là alors que tu viens de devenir mère, puis que je m'apprête à devenir mère.
Faut juste pas devenir alcoolique puis avoir des copains violents. Ce qui, à date, se passe très bien.
Ouais, ouais.
On n'est pas dans ces...
Non.
Fait que voilà, l'épisode d'aujourd'hui. En vrai, ça me draine. Raconter ces histoires-là.
C'est fatigant.
Mais c'est fatigant, mais je me sens comme draw into it.
Ouais.
Parce que c'est au Canada, c'est restant, ces femmes-là. Ouais, c'est vraiment. On sait récent. Pas sont où aujourd'hui, mais.
Tu sais, ils ont presque notre âge, là.
Ah ouais.
Ils sont, c'est quoi, 86, 87.
Ouais, ils ont à peine 3 et 4 ans, nous autres. Ouais. De plus que nous autres. Puis ils font leur vie très bien, là, une avocate, une ingénieure. Ils peuvent juste pas saouler puis prendre des drogues.
Ben, tu sais, je pense que c'est une bonne chose, tu sais. J'ai pas l'impression que c'est le genre de criminels qui ont des grandes chances de récidive. Là.
Non.
T'sais, c'était vraiment comme
mais des quand circonstances même, t'sais, particulières. Tu sais que ton avocate, elle a tué sa mère.
Toi, c'est quand même fucky. T'sais... Mais sûrement que tu le sais pas.
Non, tu le sais pas parce qu'en plus, on pourrait la connaître.
C'est ça, on connaît pas leur nom, c'est ça.
On pourrait la connaître.
Ouais.
Ben, tu sais, non, parce que...
Je connais pas tant le monde en Ontario, mais...
Ah, c'est ça. Mais tu sais... Il y a bien du monde qui peuvent la connaître puis ils savent pas.
Ben oui.
Parce que c'est une jeune délinquante. Bref, c'est ça.
Mm.
Fait que merci de nous avoir écoutés, guys.
Ouais, merci pour l'histoire.
J'aimerais me reposer. Je suis, on dirait, mentalement ouais,
t'es,
épuisée.
T'es vraiment brûlée.
Ça m'a tout pris. Mais quand même, 6 pages d'histoire.
Quand même.
Ça a été long, l'écrit, celle-là. Fait que voilà, merci beaucoup de nous avoir écoutés.
Oui,
continuez à nous écrire. Nous envoyez des crimes de potins, on tripe vraiment.
Oui, oui, plein de crimes de potins, toujours plus.
Oui,
on en veut plus.
Merci encore, Marilyn, pour ta suggestion.
Oui.
Très appréciée.
Oui, et... c'est ça, suggestion, on en reçoit beaucoup, là. On les note toutes, là. Fait que, ça se peut que votre suggestion, on la fasse dans 4 ans, là.
Dans 4 ans?
Non, mais tu sais, on est encore là, je sais pas. Mais tu sais, dans le sens, on en a, là.
On en a.
Mais continuez pareil, là.
Oui. Ça fait du bien.
Mais oui. Puis, c'est ça. Continuez à nous écrire, puis à nous encourager aussi, si vous voulez, sur Patreon. Puis,
oui.
C'est ça. On vous aime.
Oui.
Binkou.
Binkou. Bye.
Bye.